maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Libre.
Essen, auch von Mensch weichen. Essen, willkommen bei Haus der Frühstück und Mensch weichen. Theologischen, Theologen, Theologen, Essen, auch von Mensch weichen. Essen, willkommen bei Haus der Frühstück und Mensch weichen.
Beat arrive à la malie de l'album Prosaclet. Et maintenant, pour vous propose un petit rafraîchissement au oui ou là, c'est bon ça.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Lyon, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Aujourd'hui dans Les Oreilles Libres, Antoine Arnera et Guilhem Meyer, deux membres du groupe Poil. On les a rencontrés lors de l'excellent festival de Malguenac en août dernier, à Malguenac en Bretagne. Programmation intéressante et variée, super accueil, belle organisation. Peut-être reparlerons-nous de ce festival breton de Malguenac dans les arrêts libres, j'espère. Aujourd'hui, il sera question du groupe Poil, mais aussi de leur association avec Junko Ueda, du Grand Sbam, grand orchestre d'une quinzaine de musiciens, du label Dur et Doux et de l'opéra Janus qui sera créé mercredi 16 novembre au Théâtre de la Renaissance à Oullins, dans la banlieue de Lyon. On a commencé l'émission avec Patachou, extrait de l'album Brossaclite sorti en 2014. Sans plus attendre, on écoute le début de l'entretien avec Antoine Arnera et Guilhem Meyer.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Antoine.
Bonjour. Bonjour Guilhem.
Alors pouvez-vous vous présenter, afin que les auditeurs identifient vos voix déjà, et nous dire de quel instrument vous jouez dans le groupe Poil et quel a été votre apprentissage de la musique ? Antoine.
Alors Antoine, oui, je m'appelle Antoine, je suis pianiste, claviériste, et, voilà, je joue dans Poil Ueda, notamment. Voilà, donc j'ai une formation aussi, la question donc, de ma formation, c'est une longue formation classique, avec l'apprentissage du piano, voilà, répertoire classique, baroque, moderne, voilà. Et après, on va dire à partir de la majorité, j'ai commencé la composition. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Guilhem, ici présent, et que nous avons monté le groupe Poil. Voilà. Qui était peut-être un peu une, aussi, enfin, en tout cas pour ma part, une réaction, une opposition un petit peu à cette culture classique. Ouais. Maintenant, il y a eu réconciliation depuis, mais voilà.
Ah, d'accord, c'est intéressant ça. Ouais, ouais.
Ça, c'était, disons, un autre pendant quoi, de la musique, une autre manière, une autre approche. Et voilà, ça fait du bien de voir les choses sous un autre angle.
Guilhem ?
Alors, moi, oui, Guilhem, batteur de Poil. Donc, bah, comment j'ai commencé ? J'ai commencé en faisant de la guitare, en faisant du rock vers 14 ans. Autodidacte quoi, et puis après je me suis mis à la batterie quand j'ai eu envie d'apprendre un instrument de manière poussée, je me suis mis à la batterie un peu plus tard, vers 18-19 ans, et puis je suis allé au conservatoire en jazz et aussi musique contemporaine, enfin composition, c'est voilà, là où on s'est rencontrés, donc du coup voilà.
Ouais. Comment est né le groupe Poil et comment vous êtes rencontré avec le troisième compère qui est Boris, et comment vous avez décidé de faire ce groupe-là, quelle a été l'origine du groupe?
Ben en fait moi j'habitais avec Boris à l'époque, donc j'étais étudiant, lui il était il faisait déjà pas grand chose hein. Il avait qu'à être là et puis voilà, enfin, lui était plutôt dans ses bouquins, il faisait du jazz manouche, tout ça, de la contrebasse. Et du coup, bah, moi j'ai eu envie de monter un groupe avec lui. Et ça correspond au moment où j'ai rencontré Guilhem. Donc on, voilà, spontanément, contrebasse, piano et batterie, c'était une bonne base. Quoi. Donc ouais. on a monté comme ça, quoi. On a proposé à Guilhem.
Et la première répète, c'était avec un saxophoniste. Avec un ouais. Mais ça a duré une répète.
Ouais. Voilà. Ouais.
Et Boris a une formation autodidacte également ?
Ouais, je crois que, bon, enfin là on répond à sa place, on sait pas trop, mais je crois qu'il est, c'est un peu comme moi, il a dû commencer par la guitare,
peut-être ouais, il a fait du rock, un peu punk aussi, je crois. Ouais.
Je crois qu'il a commencé comme ça par la guitare, et puis après il s'est mis, je sais pas trop pourquoi, à la contrebasse, il me semble. Ouais. Parce que la basse, en fait, au début dans Poil, on était complètement acoustique, Boris c'était à la contrebasse, piano acoustique Antoine, et moi batterie, mais où je jouais aussi un ballet, enfin c'était un son acoustique. Et après c'est vers 2009-2010, je crois, qu'on s'est électrifié. Ouais. Et donc là, Boris il s'est mis à la basse électrique, et je crois que c'est plus ou moins la première... fois qu'il se mettait à la basse.
Ouais, ou... Il n'avait jamais joué de basse électrique avant.
Ah oui, parce que bah, j'ai lu, je ne sais pas, sur internet, que vous étiez un trio acoustique de jazz. Ça m'a beaucoup surpris. En fait.
Non, mais ça, c'est parce qu'il faut donner des étiquettes. Oui, mais oui, c'est parce qu'au niveau du son, forcément, ça donne des références plutôt de jazz quand c'est contrebasse, piano, ouais, acoustique, batterie. Et puis parce qu'il y avait pas plus d'impro que maintenant. Au début, ouais, c'était quand même de la musique assez écrite, mais avec beaucoup, beaucoup plus de passages très improvisés. Et enfin voilà, c'était donc ça pouvait peut-être plus ressembler à du jazz quand même. Hein. Moi, je jouais avec des morceaux où j'étais au ballet, face à
ouais,
là,
oui,
ça,
y avait des...
ça avait un son quand même un peu plus jazz. Ouais.
Mais même le jazz, c'est comme le rock finalement. Maintenant, tu as un peu de tout et à boire et à manger quoi. Donc,
ouais. Et comment vous expliquez cette évolution? Qu'est-ce qui a fait que vous avez évolué vers une musique très écrite et très rock, je sais pas, mais très énergique, on va dire.
Bah déjà, au niveau du son, je me rappelle que c'était très dur de... On voulait jouer dans une énergie rock, quand même, globalement. Et je me rappelle que c'était compliqué, contrebasse, piano, batterie, d'avoir un son avec plus de, voilà, avec beaucoup plus de pression. C'est pour ça que finalement, au début, on s'est électrifié, pas à contre-cœur, mais je me rappelle que toi, au début, tu n'étais pas vraiment claviériste dans l'âme, tu es toujours pianiste dans l'âme, mais tu n'avais pas encore développé le côté clavier, quoi.
Ouais.
Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça, mais aussi parce qu'on voulait explorer plus le côté énergique du son, quoi.
Mais pour moi, c'était un peu comme changer d'instrument en fait, parce que jouer du piano sur un clavier, ça m'intéressait pas. Donc j'ai dû pour ça, petit à petit, maintenant je joue avec un ordi carrément pour avoir tous les sons que je veux, pouvoir trifouiller des trucs.
Voilà. Qui compose et comment procédez-vous? Est-ce que vous écrivez sur partition par exemple?
Ouais. Oui, on compose tous. Hein. Ouais, c'est marrant, ça a dévié un peu au début.
Ouais, c'était que toi.
Que moi, après Guillaume et moi, et maintenant même Boris s'est mis. Et là, vu qu'on a intégré, donc pour ce projet-là, Poil Veda, parce que nous, on est un trio à la base, Poil. Ouais, ouais. Et là, on s'est agrandi pour jouer avec Junko, donc la chanteuse qui nous accompagne, japonaise. Et donc, il y a Benoît Lecomte qui joue aussi dans Ni et dans Pignol, voilà, qui joue de la basse. Ouais. Et donc Boris a pris la guitare.
Et, oui.
Voilà. Et lui aussi a écrit une composition. Dans ce... enfin, on a tous ce...
Oui, c'est un peu la première fois qu'on écrit tous dans Poil.
Pour ce projet. Ouais. Ouais. Mais on va en parler après.
Okay.
Ouais. On va en parler après. Là, j'aimerais savoir, dans l'histoire du groupe Poil, qu'est-ce qui a motivé l'apparition du chant dans votre musique qui reste suffisamment complexe et qui pourrait être qu'instrumental?
Moi, je me rappelle au début de Poil, le chant, ça restait anecdotique, mais on a toujours voulu en mettre. Parce que, alors, au début, les premières années de Poil, le caractère de la musique était vachement plus drôle et un peu cartoonesque.
Oui.
Il y avait vraiment un côté plus comme ça. Et donc, les voix servaient à aller dans ce sens-là. Et après, vu qu'on a toujours bien aimé chanter, et puis qu'il y avait on a toujours fait beaucoup d'emprunts à plein de musiques différentes, on avait un chœur, un espèce de chant géorgien. Et même en un moment, on a chanté plus tard des trucs japonais.
Après, on s'est tourné vers les polyphonies occitanes.
Ouais, voilà, ouais.
Voilà.
Et alors, en 2018, est sorti un split album avec Moula. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe et qu'est-ce qui vous a poussé à vous associer à eux?
En fait, il y a une année, c'était l'année de la Colombie, je crois, on n'a pas participé. Mais par contre, ça a créé des liens entre certains groupes colombiens et des groupes de Bogota et des groupes lyonnais, notamment en Périscope, là où on travaille, là où on répète et là où il y a nos bureaux. Et comment ça s'est fait? En gros, nous, on connaissait déjà des musiciens de là-bas, Meridian Brothers, enfin tous ces groupes-là, je sais pas si... voilà, Moula. Et du coup, je sais pas pourquoi. Il y a eu une proposition d'aller là-bas, de faire une tournée, et puis on les a rencontrés, on a tourné avec eux.
Ouais, c'est ça, c'est une proposition qui nous a été faite, et nous, on était super contents de découvrir des gens, d'aller jouer là-bas avec eux, et tout ça.
Notamment, on a bien sympathisé avec Maria Mantré,
ouais,
qui joue dans Meridian Brothers, mmh, et qui est clarinettiste. Et donc elle nous a hébergés là-bas, elle nous a accueillis, c'était super. Voilà, on a fait un petit voyage en Colombie,
super,
très sympa.
teraz tęca no cieka, no cieka, no cieka. Tęca no cieka, cień cień, no cieka. Weź, weź, te tylko latera, teraz ją. Weź, te latera, se am de la, te 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 la. Shoot in the bass, hit the bass, go come back. We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. On vient d'écouter Luces Fadas, extrait de l'album Sus du groupe Poil, album dont on va parler avec Antoine Arnera et Guillaume Meyer tout de suite.
Alors, en 2019 est sorti l'album Sus. Quel en était le thème ?
C'était de la polyphonie occitane. En fait, on avait déjà, depuis un peu le début, l'occitan, on a toujours bien aimé utiliser cette langue qui nous plaît, quoi, et qui nous plaît à chanter aussi, parce que on n'est pas trop, on n'a jamais été trop dans de la musique à texte. C'est-à-dire que le texte, ça a toujours été un peu secondaire. On a beaucoup chanté avec des onomatopées en utilisant la voix de manière instrumentale. Et puis, donc, ça nous a amené à chanter de plus en plus en occitan. Comme ça, c'est aussi une manière de pas trop comprendre les paroles, mais quand même d'avoir une sonorité. Et donc, Sus, c'est vraiment, on a utilisé des poèmes existants de Max Rouquette et Aubanel, Théodore Aubanel. Ouais. Ouais, qui sont des poètes du 19e, 20e, début 20e. Ouais. Et donc, on a écrit des polyphonies un peu dans le style, entre guillemets. Ouais. Quoi,
et en fait, en tout cas pour ma part, je sais qu'il y a un groupe que j'aime bien, c'est des amis avec qui qu'on a invité sur notre festival, parce qu'on organise un festival dans le Sud. Et qui m'ont pas mal inspiré, c'est San Salvador. C'est vraiment de la polyphonie occitane.
C'est un groupe de 8 chanteurs-chanteuses.
6 chanteurs avec percussions. Ah oui, avec des percussions. Et c'est super cool. Ça tombait aussi un peu à ce moment-là. On avait un peu le projet de faire quelque chose avec eux. Ça ne s'est jamais fait. Ça se fera peut-être un jour, on ne sait pas.
Ouais. Ah, super. Et donc voilà. Sus
au vieux
poil est-il écrit dans un texte de présentation du disque. Pouvez-vous préciser quel tournant le groupe a emprunté avec ce disque-là ?
Je ne sais pas si c'est un tournant, en fait. Je sais pas. Peut-être qu'on est un peu plus sérieux. Enfin, je pense que c'est peut-être
ça le tournant.
Ouais.
Jusqu'à présent, on jouait avec des justaucorps rouges de gymnaste. On était vraiment dans un truc beaucoup plus fun et délirant, côté un peu jubilatoire, quoi. Déjà avec Brosse à clit, il y avait quand même beaucoup de délire. Si. Et là, dans Sus, effectivement, c'est peut-être le tournant, c'est qu'on a... On a un peu laissé de côté cet aspect-là.
L'épitrerie.
L'épitrerie. C'est vrai que c'est beaucoup moins drôle. Il y a quand même un côté jubilatoire, mais plus dans l'énergie, dans les chœurs, les polyphonies qu'on a beaucoup plus développées.
Et alors justement, on parle de ces chants d'un genre nouveau pour le groupe, avec ce disque-là, qu'on retrouvera plus tard, me semble-t-il, dans le Grand Sbam. Et est-ce qu'il y a une technique qui vous a inspiré? D'où ça vient ces chants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire en dehors? Vous venez de parler des chants des troubadours, mais est-ce qu'il y a d'autres choses?
Moi, je dirais qu'il y a... moi, en tout cas, pour ma part, et je pense toi aussi, la musique ancienne... la musique ancienne... et même la musique baroque, quoi. En fait, le contrepoint, quoi, la musique contrapuntique, c'est ce truc-là, quoi...
Ouais, parce que toi aussi, t'as une culture un peu... dans ta famille.
J'ai un peu baigné dans la musique ancienne. Mes parents étaient tous les deux musiciens. Ils faisaient beaucoup de musique ancienne. Et puis toi, t'es fan de Bach, moi aussi. Mais je veux dire, on aime bien aussi toute cette... cette écriture-là, quoi.
Il y a aussi un groupe, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Extra Life. Oui, le chanteur, il est vachement dans ce genre de chant. Enfin, après, c'est très différent de ce qu'on fait, mais... Enfin, je sais pas, on n'est pas les seuls à chercher des choses là-dedans. Quoi.
C'est bien, vous nous donnez plein de tuyaux là, d'un coup. Guillaume de Rachaud, peut-être ?
Oui, bien sûr. Hein. Comment il s'appelle ? Jésualdo.
Jésualdo, Després.
Super.
Dufay.
Et bien sinon, j'ai lu sur...
Ok, game.
J'ai lu sur Internet, il était question de Stockhausen.
Ah oui, Stockhausen.
Ouais. Ah bah ça, il y a des multiples influences.
C'est le côté cosmique, je crois. je sais que moi, j'ai toujours été attiré par ce truc-là. Les planètes, les constellations, les univers parallèles, les machins. Et c'est vrai que Stockhausen, ça transpire dans ses pièces, dans ses œuvres, quoi. Mais
mais il a aussi des discours complètement barrés. Voilà.
Eh bien, nous écoutons le grand Sbam. Thank you.
C'était Yin Yin Ken, la montagne, par le Grand Sbam, extrait de l'album Furvent. Le Grand Sbam est un orchestre, un grand orchestre d'une quinzaine de musiciens plus, je crois, et dont on va parler maintenant avec Antoine et Guilhem dans l'émission Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire, consacrée au groupe Poil et ses extensions.
Quelques mots sur cette formation, le Grand Sbam, dans laquelle vous jouez tous les trois. Tous les trois, ça va avec Boris. Qui l'a initié et avec quelle idée de départ?
Je crois que c'était pour ma sortie de...
Ouais, c'est ça.
On pensait à toi. Ouais.
c'était le rendu final, on va dire, de mes études au conservatoire supérieur de Lyon. Et donc, je devais écrire de la musique. Et comme on jouait dans Poil, en fait, on s'est dit, on pourrait faire un projet Poil plus d'autres gens. Donc voilà, on a rajouté un percussionniste et puis deux chanteuses. Et Guillaume a écrit, moi j'ai écrit, on a fait un truc. Puis voilà. Et après, en fait, ça nous a tellement plu qu'on a, on a poursuivi le truc, mais en pointillé. Parce que ça a toujours été... ouais, enfin déjà, il y a eu... Après, c'est parti en orchestre, on s'est retrouvé à 20. On a un projet où on était 18 ou 20.
Ça a mis longtemps avant
ça
de faire ça.
Ouais. Puis on a gardé le Grand Sbam, et puis après c'est devenu plutôt un... Vu qu'on avait déjà notre groupe, puis qu'on a d'autres groupes chacun dans nos coins, et on avait envie d'avoir un truc moins groupe de musique, mais plus ensemble, qui peut permettre de monter des projets comme ça, un peu à volonté, quoi. Ouais. Voilà. Des projets qui sont peut-être moins pérennes, quoi.
Eh oui. Et alors j'ai vu à la télévision sur Arte que vous êtes passé au Festival de New York.
Cette merveilleuse vidéo.
J'ai vu ça, donc vous pouvez dire quelques mots de Alain Damasio peut-être? Parce que il me semble que c'est inspiré de.
Ben, en fait le Furvent, la dernière création qu'on a fait avec le Grand Sbam, il y a. Moi j'ai écrit une grosse partie et Guillaume a écrit une autre partie. Donc c'est ma partie qui est sur Damasio. Et Guillaume lui a écrit sur les.
Ouais, on n'avait pas eu le temps de se concerter avant sur le thème, ce qui fait que moi j'avais déjà commencé à écrire sur un autre truc.
Mais c'est pas rare. En tout cas, voilà, moi, Damasio, ben en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'étais en train de lire La Horde du Contrevent. Ouais. Et ça m'a marqué comme livre, quoi. Enfin, j'étais vraiment retourné par ce bouquin. Et puis voilà, du coup, je me suis dit, j'allais laisser la musique s'inspirer de ça, quoi.
Moi, j'ai pas réussi à lire. à qui avez-vous fait appel? Est-ce que c'est parce qu'on va parler du collectif du Redou? Avez-vous fait appel à des gens du collectif du Redou ou pas seulement? À qui vous voulez?
Non, je sais même pas s'il y a des gens du collectif du Redou dans les autres membres. Enfin, si, Anne, mais Anne, je sais même pas si elle était à l'époque chez du Redou.
Après, il y a Jessica.
Oui. Mais bon, Jessica du Redou, oui. Ouais, Jessica, elle fait partie du Grand Sbam depuis le début.
Oui.
Marie aussi. Enfin, Marie, depuis. Oui, bah en fait, c'est juste la continuité de ce qu'on faisait avant. Ouais. Bah, entre-temps, il y a eu quand même l'orchestre où là, il y a eu vraiment des musiciens plus qui venaient du classique. Ouais. Enfin, pas que, parce qu'il y a eu aussi une danseuse de flamenco. C'était assez ouvert, quoi. Puis des musiciens électro, enfin, Jules.
Là, par exemple, c'est l'occasion d'en parler un petit peu, mais je suis en train d'écrire, justement pour l'orchestre, un espèce d'opéra. mais il n'y a pas de musiciens, enfin très peu, il y a une base quoi, de musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de jouer, quoi. Et puis il y a Guillaume, Jessica, Boris, tout ça, mais par contre il y a énormément de musiciens qui viennent plutôt de la musique classique. Donc il y a quintette à cordes, trio, vent, il y a une harpe, un cymbalum, six chanteurs, chanteuses, et il y a du merdier.
Ah, super. Et ça, c'est dans le cadre du Grand Sbam ou
ouais.
Ah, super.
Oui, le Grand Sbam, du coup, c'est plutôt devenu une sorte de compagnie où chaque projet fait appel. Enfin, c'est des groupes, un ensemble différent, quoi, selon les projets.
Guillaume, d'ailleurs, il a des projets aussi qu'on considère comme dans le collectif Grand Sbam, quoi.
Kuhn,
et, en fait, dès que ça part un peu plus dans la musique création contemporaine, tout ça, ça passe.
C'est vraiment plus un peu moins rock peut-être, ou plus dur à vendre à jouer dans des petits lieux de rock parce que c'est soit ça prend trop de place ou soit c'est. Moi par exemple j'ai un duo avec une danseuse de flamenco, donc ça c'est un truc dur à jouer dans des salles de rock.
Et alors le Grand Bab ne fait pas partie du catalogue du collectif du Redou?
Alors si. En fait, c'est notre label, c'est Duredou qui sort les disques pour le concert aussi.
Et alors comment est né le... Parlons un peu du label. Comment est né le collectif Duredou? Je crois que c'était en 2008. Avec qui?
En fait, c'est Brice et sa pute. Le groupe, c'est un duo avec Marie Nachuri qui chante dans le Grand Sbam et Pierre Chanel qui est un gars qui fait plein de choses et qui fait notamment beaucoup de clips pour nous, plusieurs clips de Poil, de Pignol aussi, c'est lui qui les a réalisés. Et c'était eux deux à la base qui ont monté une asso avec Clément. Qui aidait Brice et sa pute pour tourner. Ouais. Et puis on s'est rencontrés, je sais plus pourquoi, comment on s'est rencontrés.
On a fait une tournée au moment où Brice et sa pute a rencontré Clément. Nous, on partait en tournée avec Brice et sa pute et on a fait 5 petites dates. Et Clément voilà, a décidé de nous faire tourner aussi. Donc ça a relié Brice et sa pute, Poil. Et après, les copains sont arrivés, il y a eu Schrum, etc. Et ça a grossi petit à petit.
Et voilà, maintenant, il y a tous les groupes, on ne sait pas combien de groupes, peut-être une quinzaine.
Au moins une quinzaine, plus, je
pense, peut-être tous les groupes, de nous tous, quoi, plus Périphérie.
Et, et alors, est-ce qu'il y a dans le collectif, une ligne éditoriale, une philosophie
Ça, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est un peu incontrôlable parce que c'est quand même Clément qui a une vision de Duredou parce que c'est lui qui se frotte le plus à tout ce qui est communication, prod et tout ça, mais à la fois il laisse le truc ouvert parce qu'on pense ça comme un collectif. Donc où tout le monde a son mot à dire et donc on se réunit régulièrement en ce moment. Enfin voilà, on essaie de trouver des manières de fonctionner de manière collective. D'ailleurs, on a fait pas mal de choses collectivement. Tu vois, les festivals. Il y a eu plusieurs festivals du Redou. Après même l'Abeille Bugle. Même si, enfin voilà, c'est assez proche comme entité l'Abeille Bugle du Redou. Il y a le festival de l'Abeille Bugle qui existe depuis très longtemps. Enfin depuis avant du Redou. Et voilà, il y a plusieurs projets de collectif, quoi. Et après, à côté de ça, c'est devenu aussi un label, quoi. Voilà, qui sort des albums. Des fois, il y a des groupes qui ont un album sorti chez Duredou, mais qui sont plus loin au niveau collectif. Voilà, donc c'est un peu un truc pas ultra défini, mais
je dirais quand même qu'il y a une espèce de ligne qui est pas esthétique, mais qui est plutôt, on va dire. Un peu des projets en marge, quoi, pas qui se fin. On verra rarement. Enfin, il y a de la pop, il y a tout, mais à chaque fois, c'est des projets un peu particuliers, quoi.
Singulier, disons.
Singulier.
Oui, voilà, votre émission. Et est-ce qu'il y a un aspect également administratif, tu sais, pour représenter les projets à la Quedra, par exemple, à la Drague, pardon.
Ouais. Bah, carrément, c'est un peu le... ça qui fait que ça a pu grossir et nous faire vivre, parce qu'il y a voilà, Adrien Arnera, le frère d'Antoine, qui est à la fois l'administrateur de Duredou et du Grand Sbam, d'ailleurs, double casquette. Et donc, voilà, il y a un gros boulot derrière de tout ce qui est administratif, quoi, demande de sub, etc. Et puis en plus, maintenant, depuis quelques années, on peut embaucher quelqu'un à la com, Judith. Et quelqu'un à la Alex, comment on appelle ça, ce qui fait, c'est aussi de l'admin, enfin c'est pas de l'admin, c'est de l'admin. Et puis on a aussi un booker, Marius, qui aide les projets un peu à trouver des dates.
Ouais. Eh bien on écoute Poil, lui là.
Yeah. Lick et le Troki. Sintu Nagon Taira no Tomori Kyoa. Fune no Miyoshi ni tachi agari.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, nous venons d'écouter Dan No Ura de Poil Ueda, et il va être question dans la suite de l'entretien de leur association avec cette chanteuse japonaise.
Dans vos premiers albums, on peut déceler, déjà, un intérêt pour la culture japonaise. Il y a du chant dans Brosse à clip, par exemple. À quoi est-ce lié ? À la musique, par exemple, ou à autre chose dans la culture japonaise qui vous intéresse ?
Je pense principalement à la musique, hein, quand même.
En tout cas, pour ma part, je suis jamais allé au Japon, je connais pas trop la culture. Enfin, j'ai même pas été trop attiré par les mangas ou les trucs comme ça. Mais c'est vraiment la musique, il y a un truc qui est fascinant dans cette musique, ouais, c'est clair.
Ouais, qui a tellement pas les mêmes codes que les musiques occidentales, mais qui du coup rejoignent plein de codes de musique contemporaine, quoi. enfin, je veux dire, c'est d'un certain point de vue, quoi. Et du coup, ça fait plein de passerelles, quoi. Enfin, comme plein de musiques anciennes, ou musique du monde, quoi. Enfin, du monde, je veux dire, des musiques traditionnelles de. Ouais. Les chants pygmées, par exemple, on aime beaucoup ça aussi. Enfin, je pense qu'on s'inspire de plein de trucs qui nous font triper dans des musiques qui n'ont rien à voir avec notre culture très établie de musique classique ou rock ou qui sont très codifiées. Et ben en fait, il y a plein de codes qui n'ont rien à voir partout ailleurs et on se nourrit de ça, quoi. Donc la musique japonaise, ça fait partie de ça. Et,
ouais. Donc, tu parles de musique japonaise traditionnelle, ouais. Parce que moi, je connais aussi pas mal de groupes japonais, pas du tout traditionnels.
Ah ouais, carrément. Enfin, pour ma part, et je pense que c'est peut-être pareil pour toi, je pense qu'on a découvert... Enfin, moi, j'ai découvert ça plutôt après, je sais pas, Men Banana ou des groupes de, japonais super chouettes.
Goat, ça c'est bien.
Ouais. Mais ça, c'est, je dirais que c'est, je pense pas que ce soit ça qui nous a inspiré pour aller à la musique japonaise. C'est vraiment la musique traditionnelle.
Ah, okay.
Gagaku, le théâtre no, tous ces trucs-là.
Alors si peut-être les films. Moi, je sais que j'ai été très inspiré par les contes de la lune vague après la pluie là.
Kurosawa aussi.
Kurosawa et dedans il y a des il y a de la musique et ça.
Alors comment êtes-vous rentré en contact avec Junko Ueda? Et comment vous est venue l'idée de collaborer avec elle?
Ben ça, je crois que ça fait longtemps justement avec Guillaume qu'on en parlait. On voulait, on avait une attirance pour ces musiques-là, on s'est dit quand même un jour ce serait trop bien d'avoir un ou une chanteuse qui chante dans ce style ancien. Donc déjà on avait cette envie-là. Et puis ben, comment c'est arrivé en cherchant. Je tombais un peu par hasard sur son site internet, quoi. Et j'ai envoyé un mail. Je pensais pas du tout qu'elle répond. Enfin, c'était un peu au culot, quoi. Je savais pas si elle répondrait, si ça l'intéresserait. Puis elle a répondu le lendemain. J'avais un message en disant oui, ça m'intéresse. On peut en discuter.
Ah, on a eu de la chance.
Alors voilà. Par contre, elle aime pas trop quand je dis ça parce que c'est comme si. Enfin, elle a jamais fait ça non plus, quoi. Donc c'est aussi parce que notre musique, il y a un truc qui lui a parlé.
Elle nous disait que globalement, elle répond toujours par la négative quand elle a des propositions comme ça. J'ai l'impression qu'elle a pas fait des tonnes de collaborations. Ouais. Elle en a fait pas mal avec des compositeurs contemporains ou avec des improvisateurs un peu, mais ça, c'est toujours resté dans un cadre assez acoustique, dans un cadre musique contemporaine, enfin je sais pas comment dire. Et elle, par contre, depuis qu'elle est jeune, elle a toujours écouté apparemment du rock progressif.
Ah d'accord, c'était ma question. C'est la seule question que j'aurais pu lui poser, même quand j'aurais presque réussi à le dire en anglais. Comment elle perçoit le rock?
Alors ça, on pourra pas répondre à sa place parce que je sais pas dans quel type de culture elle a, quoi. Elle nous a parlé de groupes rock progressif, mais que je connais pas trop. Enfin, je sais plus.
Emerson, Lake.
Ah oui, Lake and Palmer, c'est Emerson, Lake.
Ah oui.
Ouais, mais ça, je connais.
On connaît pas trop.
Truc des années 70, quoi, un peu, mais qui ont l'air d'être plutôt un peu soft.
Après, alors ce qu'elle dit et ce qui est vrai, pour le coup, je pense qu'on ressent la même chose, c'est que elle a une musique qui est hyper intérieure, très, il y a une forme de sobriété, d'efficacité, et que ce soit dans son instrument ou dans son chant. Et nous, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est foisonnant, il y en a de partout. On en met des caisses partout, partout il y a des trous, on remplit les trous. Mais il y a une énergie qui est similaire, peut-être dans l'opposition, je sais pas comment dire, mais il y a un truc où chez elle c'est contenu et chez nous c'est on libère l'énergie. Et
c'est ce qui fait que ça cohabite bien, quoi.
Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cet instrument qu'elle joue là?
Le Satsuma Biwa. Ouais.
De ce qu'on a lu, parce qu'on connaît, nous on a découvert avec elle, c'est elle qui nous a parlé de cette tradition ce style de musique qui s'appelle le Satsuma Biwa, je crois, comme le nom du. C'est un instrument dédié à ce style-là. Et je pense que c'est, en tout cas, c'est un instrument dans la tradition, comme je te disais, apparemment c'est une musique. J'ai même lu que c'était des aveugles qui chantaient ça, peut-être parce qu'ils avaient plus de mémoire, mais bon, ça, je sais pas si c'est une légende ou quoi, mais qui colportait cette, enfin qui répandait cette cette épopée. Mais apparemment, la musique, elle s'est écrite. Enfin, elle nous a montré des partitions. Donc, je sais pas à partir de quand.
Là, ce qu'elle chante, c'est sa prof qui l'a écrit. Et sa prof qui est, j'imagine, décédée depuis longtemps, mais qui a écrit la musique.
Ah, c'est elle qui l'a...
Donc c'est pas si vieux que ça, elle a écrit ça, je crois, dans les années 50.
Bah, parlez-nous un petit peu de la composition, comment vous procédez avec elle? Ah, visiblement, de ce que je comprends, il y a déjà quelque chose écrit.
En fait, elle, c'est un récit, c'est vraiment un récit Yoshitsune. Enfin, là, il y a Yoshitsune et Danno-Ura, c'est deux récits épiques qui parlent un peu des mêmes clans. C'est les clans des Heike et des Genji. C'est deux clans qui se sont affrontés au XIe siècle au Japon. Et donc, elle raconte cette histoire-là avec nous. Mais nous, on a composé autour de son chant. C'est-à-dire qu'elle, son chant, on l'a quasiment pas touché. On l'a à peine modifié à des moments pour que ça tienne dans un temps relativement différent. Mais globalement, on a respecté même le temps, le tempo qu'elle prend. Mais le fait que sa musique soit très planante, nous, derrière, on a pu s'amuser à... Parce que nous, notre musique, elle est quadrillée, quoi. Il y a un tempo, il y a des machins, et elle est dans un truc beaucoup plus souple, quoi. Donc ça fait que les deux peuvent marcher.
Mais nous, en fait, on a écrit... En fait, elle nous a proposé cet épisode, parce qu'en fait, c'est une épopée très, très longue. Là, on a choisi que l'histoire de Yoshitsune, et puis le Danno-Ura, qui est une bataille qui s'est passée un peu avant. Et en fait, elle a déjà enregistré ce chant sur un album à elle. Et vu qu'en plus, c'était pendant le confinement, on a été retardé pour répéter avec elle de quasiment un an. Ce qui fait que, bon, de toute façon, on avait prévu d'écrire sur ce texte-là et cette musique-là. Donc, elle nous a donné le texte avec les traductions. Et on avait même la musique. Et en fait, on s'est répartis à nous quatre les différentes... Il y a trois actes, en fait. Et on a chacun écrit sur des actes différents. Donc, les morceaux sont... se suivent, s'enchaînent relativement, quoi. Et on a écrit une musique très écrite, enfin, on a une musique assez, avec un peu d'improvisation, mais très peu, quoi, sur son chant qui, lui, on l'a pas trop touché, quoi. Ouais.
Voilà. Et en concert, il me semble, Antoine, que tu racontes l'histoire dont il est question.
Ben, c'est elle surtout qui raconte, mais moi je fais des petits résumés pour, pour aider. Parce que je crois que même les Japonais, ils peinent à comprendre, parce que c'est quand même du vieux japonais, quoi.
Ah, okay.
Donc je crois que eux-mêmes ils comprennent pas tout, quoi. Après, ils connaissent par cœur l'histoire, parce que Yoshitsune, c'est un des héros les plus connus au Japon, quoi. Il doit y avoir des mangas, des trucs, je crois qu'il y a un Kurosawa, justement, je sais pas lequel d'ailleurs, mais où il y a une des scènes, enfin, qu'on assiste à une des scènes, quand il passe la frontière et que le maître Yoshitsune se fait battre par son serviteur pour sauver la mise, parce qu'il se...
Pour faire croire aux gardes que c'est un vulgaire... Enfin voilà, que c'est pas le grand maître Yoshitsune, quoi pour ça.
Je me souviens très bien de ce morceau. Alors, pour quelles raisons ce répertoire nécessitait la présence de la basse de Benoît et basse acoustique, me semble-t-il, je suis pas sûr. Oui, c'est ça.
Ce répertoire ne nécessitait pas c'était juste une envie. En fait, on bosse en... Bon, après, c'est aussi parce que vous habitez pas loin, et puis on se voit beaucoup avec Ben. C'est un super pote, on s'entend super bien musicalement. Et en fait, c'est juste qu'on avait envie de jouer avec lui, l'intégrer, quoi. Puis Boris, vu qu'il est quand même un guitariste à la base, puis même dans Brosse à Clit, il y avait plein de morceaux qu'il jouait à la guitare. On a pensé à ça, on s'est dit que ça pourrait vachement élargir le son d'avoir et une basse et une guitare, clavier, batterie. Parce que on a vachement modifié le set. Toi un peu, moi aussi beaucoup, j'ai pas du tout la même batterie que d'habitude, c'est pas une batterie classique, quoi.
Tu peux nous en dire quelques mots?
C'est plutôt un ensemble de percussions, enfin batterie-percussion, quoi, où j'ai un truc à cordes, je me suis fabriqué un espèce de tome avec des cordes dedans, où je peux frapper sur des cordes, c'est une sonorité qui va un petit peu se rapprocher, je trouve, d'un son asiatique, quoi, enfin... Et voilà, puis sinon après j'ai des petits ensembles de bols, de cloches, de trucs comme ça. et puis des, tout un système d'effets dessus, Donc on a tous une usine à gaz d'effets, Antoine avec son clavier, il fait carrément de l'électro, quoi, c'est plus que du clavier, quoi. Et puis les deux, Ben il joue de la basse acoustique, mais il a aussi beaucoup d'effets, et Boris a la guitare pareil, donc c'est un gros laboratoire avec plein de possibilités de textures qui nous donnent envie de faire plein de trucs par la suite.
Ouais, puis aussi toute cette utilisation d'effets, de sons un peu moins normés que les sons qu'on a l'habitude d'entendre. Même la fretless, enfin la basse fretless acoustique, tout ça, ça permet aussi de jouer pas forcément dans le tempérament. Et ça rajoute un truc un peu particulier. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on cherche aussi à sortir un peu du solfège classique, quoi. Enfin, voilà.
Et sur Bandcamp, il y a un morceau, je crois qu'il y a un seul morceau de Poil Védage, je crois.
Deux, je crois. Je sais pas.
Sur Bandcamp,
paru en juin 2021.
Ah oui, mais c'est
Dan
des...
No Ura.
Ouais, c'est des démos, ça, c'est une démo. Oui,
d'accord. Ouais. Oui, donc oui, il a indiqué démo. Et ma question est donc, quand on va sortir le disque, si c'est prévu?
Ouais, c'est en train d'être fini de mixer, c'est parti au pressage. En fait, on va le sortir en deux volets, je crois. Hein, parce que c'est tellement long, il y a une heure et demie à peu près, quasiment une heure et quart, je crois. Donc du coup, on a préféré sortir ça en deux volets pour pas que ce soit trop indigeste. Et donc il y a le premier volet où il y a Kujo Sakujo et Dan Ohura. Et Kujo Sakujo, d'ailleurs, c'est une introduction, ça fait pas partie du récit épique, c'est un chant bouddhiste.
Un chant bouddhiste, ouais.
Et donc ça va sortir, mais je sais même pas quand, en fait. J'imagine au printemps.
Au printemps, normalement.
Printemps,
ouais. La date précise, on peut pas la donner, mais c'est
pas encore,
mars, hein. Probablement, avril.
D'accord. Parce que ça vient juste de partir il y a deux semaines, je crois, à peine, au pressage. Ça y est, c'est fini de mixer. Okay. Et la deuxième partie de l'album, donc tout ce qui concerne Yoshitsune, c'est pas encore mixé, c'est en cours. Mais on va essayer de le sortir relativement peu de temps après le premier volet, quoi.
Il me semble avoir vu qu'il y a des dates à l'automne avec Junko Ueda.
Oui.
Elle habite en France, comment ça se passe?
Elle habite à Granada, en Espagne.
Ah oui, d'accord.
Bah heureusement, c'est mieux que. Bah oui. Enfin, c'est plus simple que si elle était au Japon. Ça fait 20 ou 30 ans qu'elle habite en Europe.
Ah d'accord, ouais. Ok.
Donc elle s'est bien européanisée. Enfin bien européanisée, je veux dire, elle est familière à l'Europe, quoi.
Yeah.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous écoutez l'émission Les Oreilles Libres consacrée au groupe Poil aujourd'hui. Alors on vient d'écouter Pignol, association des groupes Poil et Nid, le morceau Pogne, extrait de l'album Brancoucou. On écoute la fin de l'entretien avec Antoine Arnera et Guilhem Meyer.
Ma question est, dans quelle autre formation jouez-vous chacun ? Peut-être Gwynvurst.
Oui, bah Gwynvurst, c'est mon pseudo. Je fais de la techno avec mes claviers, avec mes doigts même. Il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de loop. C'est un projet d'improvisation sur des claviers, mais pour faire le dance floor. Voilà. Et puis après, bah, j'ai le grand sbam avec plusieurs formations. Il y a un projet qui s'appelle Tourniquet, où on joue sur un tourniquet avec Marie Nachuri qui est chanteuse. Oui. C'est plutôt du théâtre musical. Il y a le Furvent, c'est déjà suffisant. Ouais, bon, l'orchestre, là, l'opéra qui est en cours. Ouais. Enfin, c'est un opéra zoopunk.
Et puis Pignol qui va.
Et Pignol.
Ah, ben oui, on n'a pas parlé de Pignol. Voilà. Peut-être quelques mots sur Pignol.
Ouais,
c'est l'association avec Nid.
Ouais. Ouais, à la base, et après ça, il y a eu des petites modifications, mais à la base, oui, c'est ça, c'est Poil et Nid. On était en tournée, on a fait des grosses tournées ensemble et on s'est tellement bien fendu la poire qu'on s'est dit ce serait trop bien de faire un gros groupe de rock. Et puis Clément a rendu ça possible, ce qui fait qu'on a monté ce truc, c'était super. Et puis après, le Nico, le batteur de Nid, a préféré lâcher l'affaire, il avait beaucoup trop de. Il était trop pris. Donc du coup, c'est Jean qui l'a remplacé. Et voilà, on a continué avec lui. Et là, maintenant, on s'est arrêté il y a quelques années, un peu avant le confinement, parce qu'il y avait plein de gens dans le groupe qui avaient des enfants. Et puis, on était tous super pris par d'autres projets. On avait terminé un peu, on avait beaucoup joué notre album. Et du coup, on a fait une grosse pause. Et Jean a arrêté, a lâché le groupe. Ce qui fait qu'on a mis du temps à trouver quelqu'un d'autre. Mais là, ça y est, on a fait une session en début d'été avec un nouveau batteur dont on est très content. Le batteur Rémi, c'est le batteur de Ultrazouk, qui est un groupe qui est aussi chez Durédou. Et voilà, qui est un gars adorable. On est trop content de. Donc voilà, ça va débuter, mais on va commencer à répéter qu'en 2023. Enfin, on est tellement pris jusqu'à, je sais plus quand, mai 2023. Donc c'est pas pour tout de suite, quoi. Mais en tout cas, voilà, on voulait pas lâcher le truc. Ouais. Mais donc on temporise, quoi.
Nico, dont tu viens de parler, et Benoît, nous avions interviewé il y a quelques années pour Nive,
ouais.
À la sortie de leur album.
Les
Insurgés de Romy. Ouais. Exactement. Alors peut-être, toi tu joues dans d'autres groupes, me semble-t-il.
J'ai aussi un solo qui s'appelle Elephant, et donc c'est aussi un solo de musique impro. Donc il y a ça, j'ai un duo où je joue de la guitare avec Jessica qui est chanteuse dans ce band et qui elle fait la percussion et tout, c'est plutôt du rock.
Pilicoïd.
Pilicoïd, ouais, voilà. Ouais, ah oui, j'ai un nouveau groupe de musique turque, donc rien à voir, grec, turc, on reprend des trucs, ça c'est tout frais, voilà, mais c'est cool, ça s'appelle Yeni Gaïda.
Comment ça s'appelle ?
Yeni Gaïda, ah, c'est vraiment tout frais, hein. C'est, avec une violoncelliste, un joueur de saz, et puis une flûtiste. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Un truc cool,
Ah oui, Kuhn, ouais, ça c'est un spectacle de, qui fait partie aussi du Grand Sbam. Théâtre musical, donc on est deux percussionnistes et deux comédiens marionnettistes. On fait du théâtre d'ombre avec de la musique, du texte sur sur des textes philosophiques de Chuang Tzu, qui est un des pères, enfin considéré comme un des pères du taoïsme. Mais c'est plutôt un espèce d'anarchiste.
Très bien, ouais. Tant mieux. Et il me semble que vous avez parlé d'un festival dans le sud, ça m'intéresse beaucoup ça.
Oui, ça c'est la Babel, c'est un festival qui existe depuis 15 ans maintenant. Ouais. J'ai monté avec des copains, c'était au départ un petit festival pour faire que des musiques complètement barrées. Et puis ça reste des musiques barrées, mais on s'est un petit peu plus ouvert au départ. Au départ, c'est vraiment musique électroacoustique, impro, free, musique contemporaine, que des trucs imbitables, mais qu'on aime. Et aujourd'hui, maintenant, on continue. Alors avant, c'était dans la Drôme, maintenant, c'est dans les Hautes-Alpes, à Vaunières. Donc c'est un petit village perché au milieu des montagnes, dans le Buëch. Vers Bus-la-Croix-Haute. Voilà. C'est un festival qui est tous les étés normalement. On a fait une pause pendant le Covid et tout ça, mais en gros, c'est familial quoi. Il y a 500 personnes à peu près. Et puis c'est plein de groupes de plein de styles différents.
Alors c'est quand là, concrètement ?
C'est passé, c'était il y a 15 jours.
Ah mince.
C'est toujours le dernier week-end de juillet.
Ouais. Dernier week-end de juillet. Mmh. Très bien, bonsoir. Dans les Alpes. Et enfin, quels sont... Alors, vous en avez pas mal parlé, mais y a-t-il d'autres projets dont vous aimeriez parler, y compris peut-être du label, ou les choses que vous avez dans la tête? Moi, j'aime bien savoir ce que les gens, les idées, hein, les trucs qui sont même pas enclenchés, quoi.
Ouais, il y en a plein, un problème. Après, moi, je suis omnibilé, je pourrais pas vraiment parler d'autre chose que ce que je suis en train de faire, parce que ça fait des mois que j'écris ce fameux opéra là, et que j'ai hâte que ça,
oui, ça va
se
sortir,
soit pondu.
On va le jouer en novembre, c'est à Lyon.
Ça va être créé à Lyon.
Théâtre de la Renaissance à Oulin.
Donc voilà, c'est un gros machin, quoi, un gros merdier. Et après, quoi d'autre? Des projets, des envies.
On a
fait un petit duo, tu vois, c'était une première.
Ouais. D'impro.
Qui sait, peut-être ça se fera, on sait pas. Ouais.
Et ton opéra, le livret, c'est quoi ?
Le livret, je l'ai écrit aussi avec mon frangin. Et c'est une espèce d'histoire inspirée de, on va dire, deux grandes lignes. C'est y a un astrophysicien que j'aime bien qui s'appelle Jean-Pierre Petit, qui est bien barré.
Ah, ouais. Les humites.
Ouais. Les humites. Et on n'en parle pas du tout des humites, on parle des univers jumeaux. Parce qu'il a bossé sur. L'opéra s'appelle Janus. Et ça parle de notre univers qui serait jumelé à un autre, et les deux seraient imbriqués. En fait, lui, il a fait toute une théorie, mais c'est un truc de fou. Hein. Il a fait des vidéos en masse, il a étayé tout ça, c'est écrit dans des bouquins, machin. C'est très sérieux, enfin, du coup, c'est pas du délire. Et ça me parlait, et en même temps, je lisais Donna Haraway, qui est une biologiste, philosophe, féministe, qui parle de Stulucène, qui remplacerait l'Anthropocène. En fait, elle milite pour... elle en a un peu marre qu'on parle d'effondrement, de machin, etc. Ouais. Parce que pour elle, c'est pas comme s'il y avait un mur et qu'on fonçait dedans. C'est juste on est dans une planète malade, abîmée. Et ben, faut vivre avec ça. Et donc, faut vivre avec le trouble. Il y a un roman qui... Enfin, un roman, c'est pas un roman, c'est plus un bouquin qui parle de ça, quoi. Et le Stulucène, ce serait un peu une manière de s'hybrider avec la nature. Il y a un côté aussi Gaïa, notre planète, c'est un peu notre dieu, on va dire, quoi. On va s'hybrider et plutôt que d'être en anthropocentré. Ce serait beaucoup plus long que ça à expliquer. Et j'en comprends qu'une partie, parce que Donna Haraway, elle est passionnante, mais moi, quand j'ai lu trois pages, j'ai le cerveau qui surchauffe, quoi. Mais c'est vraiment passionnant. Et du coup, avec ça, on a créé une histoire où l'orchestre lui-même, c'est une espèce tribus d'hybrides qui vivent entre les deux univers. Voilà.
Ah, alors, il y aura des masques comme pour le Furon.
Il y aura peut-être des masques, ça je ne saurais
pas le dire. Donc ça c'est en novembre alors.
C'est en novembre.
En novembre, bien, pas bravo. Merci à vous deux, Guilhem. Antoine,
merci
au Festival de Maglénac qui nous accueille, ouais. Et puis à bientôt.
Ouais.
À bientôt.
Bye bye.
Voilà, mercredi 16 novembre au Théâtre de la Renaissance à Oullins, la création de l'opéra Janus dont on vient de parler avec Antoine. La semaine prochaine, c'est Nicolas Souchal qui interrogera notre invité François Tusk. Et oui, on se quitte avec Tronche à cul, extrait de l'album Danse à un cul, sorti en 2011 du groupe Poil. Allez, salut.
My tasty blinded bull is
happening. My tasty blinded bull is happening.